L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous, bon week-end et bienvenue sur BFM Business. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'atelier numérique. Ravi de vous retrouver pour ces deux heures donc dédiées aux nouvelles technologies, à l'économie numérique, avec toute l'équipe de l'atelier qui est là. Tout à l'heure, Jean Chambure sera à nos côtés pour son Vue d'Asie. Dans ce studio, nous avons, écoutez bien, Constance, Aurore, Lila, Antoine. Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour.
Bonne année.
Tous nos vœux. Et du côté de San Francisco, elle est aussi avec nous depuis le studio de l'atelier US. C'est Nathalie Doré. Bonjour Nathalie.
Bonjour François.
Nathalie qu'on va retrouver dans un instant à la fois pour son actu mais aussi pour le Silicon Carnet. Mais auparavant, un petit mot quand même sur ce que vous allez retrouver dans ce rendez-vous dédié aux nouvelles technos sur BFM Business. Cyber Gadget d'Antoine. Antoine, on vous retrouvera tout à l'heure à la fin de cet atelier pour un crash test spécial. On va rendre hommage à un grand artiste qui nous a quittés cette semaine.
Oui, ou plutôt à son double imaginaire, Ziggy Stardust, à son avatar, hein, puisque en fait, on est... Voilà, c'est David Bowie a été beaucoup de choses avant l'heure, mais il a été notamment geek avant l'heure, en inventant l'avatar du chanteur avant que nous ayons tous nous-mêmes un avatar.
Exactement. On parlera d'ailleurs de Bowie, de numérique tout à l'heure, hein, Lila, parce que vous êtes fan de,
oui.
Comme toute l'équipe d'ailleurs, hein, de l'atelier. On est un peu triste, hein, d'ailleurs, ce week-end. Et on va rendre, vous allez rendre hommage tout à l'heure à David Bowie.
Oui, parce que figurez-vous, que c'était un vrai visionnaire, et un vrai geek, comme le disait Antoine.
Voilà, on en parlera tout à l'heure. On retrouvera notre focus start-up aussi, notre enquête de l'atelier, on parlera d'emploi, de travail, à l'ère du numérique, notre web stratégie tout à l'heure, notre passion selon Sanet, avec un éclairage du sociologue Michel Lallemand qui sera avec nous sur le mouvement Faire, le mouvement Maker et Hacker, et ce que ça dit de l'évolution du travail d'aujourd'hui. Ce sera tout à l'heure. Notre World Tour, nous irons en Afrique, mais aussi à Paris pour parler de Smart Food avec Aurore et notre invité, et puis évidemment la rédaction de 01net.com tout à l'heure, en fin d'émission, et le crash test d'Antoine. Mais pour débuter, l'actu vue par toute l'équipe de l'atelier, et on commence par, broum, roulement de tambour, allez, par San Francisco et Nathalie, allez.
Oui, alors moi aujourd'hui je voulais vous parler d'une super start-up qui adresse un sujet qui n'est pas toujours couvert. Alors je m'explique, en fait le gros sujet d'actualité pour bon nombre d'entreprises c'est de se digitaliser. Donc c'est comment utiliser le digital pour se transformer et être une entreprise compétitive dans les années à venir. Et souvent en fait quand on adresse ce sujet, eh bien, les entreprises démarrent avec des projets plutôt front office, plutôt orientés clients. Ils se disent comment je vais changer mes dispositifs de vente, etc. Et en fait, quand on parle de digitalisation de l'entreprise, on parle aussi de tout ce qui est, alors, ce qu'on appelle le back office, tout ce qui se voit pas, mais qui est très important, comme les processus, tout ce qui se passe derrière. Et en fait, le digital peut faire des choses merveilleuses. Alors, comme c'est souvent un peu abstrait, eh bien moi j'ai voulu vous donner un exemple bien concret avec une start-up américaine qui s'appelle Plate IQ et qui est sortie l'an dernier du célèbre incubateur le YC, le Y Combinator, qui à San Francisco est vraiment très très connu. Alors, qu'est-ce que fait Plate IQ? En fait, ils ont démarré sur la verticale des restaurants et ils offrent une appli mobile aux restaurateurs pour qu'ils scannent les factures de leurs fournisseurs. Alors, premier effet positif qu'on imagine tous, en fait, ils dématérialisent leurs factures et ainsi, ça allège leur gestion, l'accès aux documents, etc. Bon, fine, c'est très bien. Mais en fait, il y a un deuxième effet qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'en fait, en scannant ces factures, Plate IQ convertit donc les images en texte et extrait toutes les informations qu'il y a sur les factures pour transformer ces informations en une info stratégique pour les restaurateurs. Mmh. Alors, ça donne quoi? En fait, ça vous dit combien vous coûtent vos fournitures, vos matières premières. Ça vous dit quand les avocats deviennent trop chers, vous avez peut-être intérêt à changer vos menus. Ça vous dit qu'un fournisseur vous fait payer ses matières premières plus chères dans un de vos restaurants plutôt qu'un autre. Donc, ça vous permet de renégocier. Donc, voilà, ça change vraiment l'information qu'ont à leur disposition les restaurateurs. Et en fait, c'est une information qu'ils avaient déjà au travers de leur facture, mais qu'ils n'utilisaient pas du tout. Donc, Plate IQ apporte vraiment une valeur importante là-dessus. Ils ont lancé leur service en juin dernier. Et en fait, ils viennent tout juste là de dépasser la barre des 60 millions de dollars de factures digitalisées. Donc, ça marche vraiment très bien. bien aux US. Et on est sûr que ça va pouvoir continuer sur d'autres verticales, puisque pour les entreprises, il y a plein de secteurs qui peuvent être intéressés au-delà des restaurants. Donc voilà, on est vraiment dans la richesse de la data et on a ici un exemple concret de ce qu'on peut faire.
Plate IQ. Merci beaucoup, Nathalie. Antoine.
Alors, imaginez, on va prendre un chanteur vivant. Il faut que je prenne un chanteur, ouais. Donc on va
Il en reste encore, hein.
Voilà. Heureusement. Bon, non, mais c'est, bon, enfin, je dis ça, mais j'ai été très triste.
Ah ben oui, non,
mais ces derniers jours, plusieurs fois.
Comme nous tous, d'ailleurs.
Voilà. Bon, mais là, imaginons que ça fait des années que vous, mon cher François, fanatique de Johnny Hallyday, vous êtes connu pour ça.
Lui, il n'est pas mort.
C'est ce que je dis. Vous écoutez dans votre voiture cette chanson qui dit « Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor !» Voilà. Et là, évidemment, cette
quelle chanson mythique, hein,
oui,
franchement.
Voilà. Donc c'est
quand ton corps lourd comme un cheval mort aussi.
Voilà, oui,
j'aime bien ce passage.
Absolument.
Il est très sympa.
Donc c'est vert.
Parce que c'est vrai qu'un cheval mort, c'est lourd, hein, quand même.
C'est vert totalement ésotérique.
Oui.
La signification profonde vous échappe. Vous avez une très grande difficulté à comprendre ce que ce brave Johnny peut bien vouloir dire,
oui,
quand
quel
il
est
dit
le message.
L'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Bon. Eh bien, pour les nombreuses personnes, j'en suis certain, qui n'arrivent pas
à saisir
oui, le sens profond des paroles des chansons, et
oui,
notamment de celle-là, j'imagine.
Il y a quoi? Parce que là, vous faites durer le suspense.
Et bien,
Antoine.
Eh bien, Spotify vient de créer un service qui s'appelle Behind the Lyrics, et qui vous donne une explication de texte et des informations d'initiés sur les titres grâce à un partenariat avec le site Genius. Voilà. Donc, quand le sens, comme j'imagine, là, est un petit peu difficile à saisir, ce système, donc, vous affiche sur un petit écran noir les informations qui vous manquent pour avoir une parfaite compréhension
de la chanson.
Voilà. Bon, en fait, il y a aussi quand même beaucoup d'anecdotes, comme, quand Johnny a écrit cette heure, parce que c'est pas lui qui l'a écrit.
En plus, c'est pas lui.
Mais bon. Voilà, enfin bon.
Il aurait pu d'ailleurs. Hein.
Alors pour l'instant, cette fonctionnalité n'est pas disponible sur Johnny parce que ne l'avez que sur la playlist hip-hop. Mais
il
faut en plus utiliser sur iPhone 5 ou iPhone 6. Mais bon, vous aurez bien compris ma demande très forte est de pouvoir que les personnes de génération un peu plus chenues comme la mienne puissent également accéder à ces explications
sur
leur musique.
Voilà. Ça vous fait rire, ça, Antoine?
Un peu.
Constance.
Oui, alors moi je vais vous parler d'un sujet beaucoup, beaucoup moins lyrique. C'est Uber qui continue sa diversification. Donc tout le monde avait entendu parler d'Uber Eats, en fin d'année dernière, qui proposait de la livraison de nourriture dans les bureaux. Et maintenant, Uber a une nouvelle fonctionnalité. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'on passait parfois beaucoup de temps sur la banquette arrière sans savoir quoi faire pendant le trajet.
Ça va, Constance?
Ils me regardent bizarrement.
Mais non, mais
et
c'est
du coup,
vous écoutez la voilà, chanson de Johnny Hallyday qui parle des montagnes, des forêts et des trésors.
Ouais. Le chauffeur
serait
content.
Surtout sur la banquette arrière, là, c'est tout un poème.
Alors en fait, l'entreprise a décidé de faire un partenariat avec des applications tiers pour permettre aux utilisateurs d'avoir des notifications.
Oui, allez-y, ça va bien se passer.
Donc du coup, la taille de la notification s'est adaptée à la durée du trajet, mais aussi le contenu et la localisation du véhicule. Donc
non,
en fait,
non,
la fonctionnalité s'appelle Trip Experience. Donc en fait, ça permet par exemple, si on a un trajet de 10 minutes, d'avoir une playlist de 10 minutes qui va être proposée à l'utilisateur. Pourquoi pas Johnny? Tout est possible. Ou alors, si c'est un trajet plus court, d'avoir quelques informations pendant 5 minutes, si jamais c'est vraiment pourrait déposer quelque part, ou un couple par exemple qui décide de se rendre au restaurant pourrait recevoir une notification des plats à commander sur place quand il va arriver en avance. Donc la personne a quand même le choix de refuser les pop-up si elle le souhaite, parce qu'on peut imaginer que les marques vont en profiter pour faire de la publicité aussi peut-être, mais ça pourra permettre d'adapter vraiment le trajet à la personne, la durée, le lieu auquel il se rend. Et voilà, pour le moment c'est au stade du développement avec les applications et ça va arriver très prochainement dans vos smartphones.
Bon, vous savez que la semaine dernière j'étais à Las Vegas et je lance l'appli Uber et j'avais hélicoptère. J'étais quand même un peu surpris. Et donc on peut commander des hélicoptères sur Uber à Las Vegas quand même.
Écoutez, c'est... Johnny
c'est
classe, en l'air
également. C'est
comment?
À New York, également, ils avaient lancé une série d'expérimentations.
Ça, c'est
et
drôle.
Je ne sais pas si vous avez fait attention, le 1er janvier en France, à Paris, notamment, il était possible d'avoir à la fois, il me semble, un service.
Il y avait une heure de ménage, il y avait du pressing et il y avait. On vous offrait le petit déjeuner. Alors moi, j'ai tenté, j'y suis pas arrivé. J'avais
et
pas de. J'avais
sportif,
pas d'Uber autour
pareil.
De moi qui. Ça marchait pas. Bon, Aurore. Vous avez bien fait rigoler Constance. Eh bien, c'est
pas,
à vous maintenant.
Pas du tout.
Allez-y.
Moi, je vais vous parler de technologie incroyable, du fait qu'on ne peut pas mentir à la technologie.
C'est beau.
Voilà,
c'est
merci.
Tellement beau.
Notamment parce que une université chinoise a décidé de créer un polygraphe, c'est-à-dire un détecteur de mensonges sur application. Et c'est-à-dire qu'on filme une personne et via la reconnaissance faciale, on peut dire que cette personne a menti.
C'est pas vrai.
Ouais. Alors je sais pas pour quelle.
Mais ça marche vraiment ou pas?
Oui, ça marche. Alors il y a de la reconnaissance faciale, comme je disais. Il y a aussi de l'intelligence artificielle pour voir si les mouvements de la personne laissent indiquer qu'elle est en train de mentir. Alors par contre l'utilisation, je sais pas si c'est pour la police ou pour le poker. Je me pose la question. Et donc j'en ai une deuxième, une petite, toute courte. On ne peut pas mentir à ces applications de fitness, puisque une université de Chicago a décidé de créer une application qui permet d'entraîner nos trackers fitness pour savoir si on ment, c'est-à-dire si on les secoue pour dire qu'on a couru pendant des heures ou
non,
quoi que ce soit.
Ça, il faut pas faire
et ça,
ça
s'adresse
c'est pas
aux
bon.
Assurances.
Moi, j'en ai même vu qu'ils faisaient au McDonald's, qui secouaient leur truc pendant qu'ils mangeaient un burger. C'est pas beau, hein, franchement. Bon, bien merci beaucoup Aurore.
Avec plaisir.
On va revenir dans un instant pour la suite de cet atelier numérique avec notre Silicon Carnet, les cybergadgets d'Antoine. Mais tout de suite, c'est le Vue d'Asie avec Jean de Chambure.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Jean, on va s'intéresser en ce début d'année à la Chine numérique. Comment se porte-t-elle cette Chine numérique?
Écoutez François, elle se porte bien. En tout cas, vraiment, la Chine fait en sorte que tout se passe bien, notamment pour les start-up chinoises. Alors, il y a le gouvernement, par exemple, là, qui a mis un haro et qui a dit stop, on arrête de mettre trop d'éléments administratifs, on va simplifier au maximum pour qu'aujourd'hui les start-up puissent plus facilement se monter en Chine. Ça, c'est un élément vraiment très important pour l'écosystème chinois. Et puis alors, vous avez dû en voir un certain nombre au CES, François, mais vraiment le nombre de start-up, le nombre de fabricants chinois qui sont venus cette année au CES était très important. D'après le China Daily, donc ils étaient 550 l'année dernière et là, ils étaient plus de 1100, donc c'est un doublement quoi, de nombre de start-up au CES. C'est un bon signe pour la Chine numérique. Les deux petites start-up, François, dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui illustrent un peu tout ça. Alors, il y en a une que vous avez peut-être croisée dans les couloirs du CES de Las Vegas. C'est ce robot étonnant. Alors, est-ce que c'est un robot? Est-ce que c'est un hélicoptère autonome? Est-ce que c'est un drone géant? En tout cas, il s'appelle Yihang 184, et il permet de transporter une personne. Donc, c'est un drone autonome. Il a 8 hélices et il est surveillé à distance par un centre de contrôle. Il pèse 200 kilos. Il peut aller transporter jusqu'à une charge de 100 kilos à une vitesse de 100 km/h. Et voilà, il a une autonomie qui est limitée à 23 minutes. Il faut évidemment qu'il ait des autorisations de vol, ce qui ne sera pas forcément évident, mais on peut imaginer des tas d'usages amusants. Peut-être pas tout de suite un transport de passagers, mais pourquoi pas des transports de colis lourds, une intervention en cas d'urgence. Enfin voilà, c'est une innovation assez amusante d'une entreprise qu'on connaissait pas en fait, hein, ou très peu, qui a été fondée il y a à peine un an, en avril 2014
vous savez,
à Hangzhou.
Jean, ce drone a fait sensation donc au CES de Las Vegas et l'un des papas des drones français, Parrot Henri Sédou, nous disait que dans quelques années, on pourrait très bien imaginer que ce genre de drone puisse, de manière complètement autonome, transporter des passagers, des humains. C'est quand même incroyable. Hein.
Ouais. Ah ben là, il a une vision intéressante, hein, prospective. Effectivement, c'est l'idée aussi, hein, de ce fabricant chinois. Et il avance évidemment pas à pas, parce que avant qu'il ait les autorisations, hein, ça mettrait un peu de temps. Mais moi, je suis assez partant pour un vol comme ça, autonome, d'aller peut-être pas tout de suite très très loin, hein, vous voyez, mais pourquoi pas
oui.
Les studios de BFM jusqu'à chez vous, par exemple.
Oui.
François, ça vous arrivera peut-être. Hein.
Oui, parce que Shanghai BFM, ça fait beaucoup quand même. Pour
oui, là, je vais peut-être pas le tenter tout de suite.
Ouais.
Là, je vais rester plutôt sur des belles compagnies aériennes comme Air France. Mais voilà, donc ça c'est une première innovation assez amusante. L'autre qu'on regarde beaucoup à Shanghai en ce moment, c'est une chaîne qui s'appelle Shanghai Dragon TV. Et là, c'est un petit miroir. En chinois, ça se dit, excusez-moi cet accent un peu terrible, mais c'est Xiaoqiu, donc le petit miroir, une sorte de petit miroir magique. En fait, oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce petit miroir magique? Eh bien, c'est de l'intelligence artificielle, c'est des bases de données, c'est une synthèse vocale, et tout ça vous donne en fait la météo du pays. Et les Chinois sont complètement fascinés par cet écran magique qui donne cette météo. Ils n'arrêtent pas de tweeter. Enfin, là-bas, on fait plutôt du Weibo et du WeChat, donc ils n'arrêtent pas d'être sur les réseaux sociaux et de commenter avec beaucoup, beaucoup d'engouement cet écran très, très curieux qui vous donne avec une voix, je reconnais même à l'oreille, ne comprenant pas malheureusement tout le chinois, mais en tout cas à l'oreille, avec un son tout à fait agréable, vous donne des tas de précisions sur la météo.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Incroyable.
Donc, c'est un robot encore qui est derrière.
Parfait, merci beaucoup cher Jean. Jean de Chambure, donc depuis l'Asie, vous le savez, chaque samedi dans cet atelier numérique. On se retrouve la semaine prochaine Jean.
Avec plaisir.
Et dans un instant, Silicon Carnet et Cyber Gadget avec Nathalie Doré et Antoine Cyr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Vous attendez les gadgets d'Antoine? Eh bien, ça tombe bien, ils seront là dans une minute. Mais auparavant, c'est notre Silicon Carnet, direction San Francisco, avec Nathalie Doré. Alors, Nathalie, on a vu toutes sortes de drones au CES. On y était, hein, rappelez-vous, la semaine dernière, hein, au CES de Las Vegas. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemble, en fait, le marché des drones aux USA?
Alors, déjà, le marché des drones aux USA, c'est le plus gros marché mondial. Donc, c'est important de regarder ce qui se passe ici aux États-Unis. Et en fait, le marché des drones est très large. Ça va du drone très grand public que votre fils utilise ou votre fille pour des activités de loisirs, aux drones carrément à usage militaire qui sont utilisés à l'étranger. Donc, et d'ailleurs, cette large gamme d'applications se reflète aussi dans les prix. Hein, ça va, alors un drone militaire coûte plusieurs centaines de millions de dollars, alors qu'un drone, pour les consommateurs, heureusement, ne coûte que quelques centaines de dollars. Donc, c'est un marché qui est déjà très gros. Hein. En 2015, selon les derniers chiffres du CES, les drones ont généré près de 1 milliard de dollars de revenus et environ 3 millions d'unités ont été vendues. Et en plus, c'est un marché qui est vraiment en croissance très rapide.
Ok. Alors, on voit aussi apparaître des problèmes avec l'usage des drones, Nathalie.
Oui, c'est vrai. Alors, aux États-Unis, il y a beaucoup d'encre hein, qui a coulé dans les médias. Avec, alors, il y a eu un drone qui s'est écrasé sur une ligne à haute tension à Hollywood, privant plusieurs centaines de foyers d'électricité. Il y en a un autre qui s'était écrasé sur le Pentagone, sur la Maison Blanche, pardon, à proximité de la Maison Blanche, alors que c'était interdit. Donc, tous ces incidents impliquant des drones se multiplient sur le sol américain. Et en même temps, du coup, il y a certaines solutions, alors plutôt radicales, qui émergent pour s'en préserver. La dernière en date, c'était un rayon laser anti-drone, semblant tout droit sorti d'un film de science-fiction pour éviter aux drones de passer. Alors, plus sérieusement, la FAA, qui est la Federal Aviation Administration, qui ici régule tous ces sujets de drones, restreint quand même les usages pour des raisons notamment de sécurité et de vie privée.
Évidemment. Hein. Alors, justement, quels sont les usages intéressants que l'on peut faire avec des drones, Nathalie?
Alors, vous parliez du CES, on va peut-être prendre un premier usage qu'on n'imaginerait pas a priori, c'est l'usage des transports. Et au CES, il y a une entreprise chinoise qui a présenté le premier drone autonome. Donc en fait, il se déplace tout seul, il n'y a pas besoin de le manipuler, et qui peut accueillir des passagers. Donc en fait, l'ambition de cette entreprise chinoise est de concurrencer Uber, mais par les airs. Donc voilà, faut déjà avoir confiance pour rentrer dans un véhicule autonome.
Et en plus,
alors, si en plus ils volent, là ils vont devoir être très très bons sur les aspects de sécurité.
Oui.
Mais bon, ça c'est pour dans 10-15 ans. Ce sont quand même des sujets qui sont sérieux, hein, et qui sont en cours de recherche et de test. Et dans un avenir plus proche, on va dire d'ici 5 ans, il y aura aussi un usage plus là pour le retail, pour la grande distribution, un usage de livraison. Alors on l'a vu, hein, aux États-Unis l'année dernière, Amazon a annoncé son programme Prime Air où il livre par des drones autonomes des colis en moins de 30 minutes. Donc voilà, la promesse là, elle est sur la vitesse. Et puis pour l'instant, la législation le permet pas, donc Amazon est en train de le tester dans le Nevada et attend que la législation évolue. Après, si on revient sur ce qui marche et pour lequel il y a beaucoup d'usages aujourd'hui, c'est la surveillance, la cartographie. Alors on a pu s'entretenir avec Parrot, alors société française, mais qui est pourtant leader sur le marché des drones B2B, puisqu'ils ont racheté une entreprise qui s'appelle SenseFly et qui propose de la cartographie, de la surveillance. Donc on le voit pour l'agriculture, mais on peut l'imaginer aussi pour bon nombre d'autres usages, les routes, les transports. Donc ça existe déjà et ça se développe très très rapidement. Donc on voit que la valeur, elle est vraiment dans la donnée que le drone va collecter et dans les services qu'ils vont apporter.
Merci beaucoup Nathalie pour ce spécial drone, hein, le drone qui explose aux USA, qui va évidemment suivre le même chemin en Europe et en France. Merci beaucoup Nathalie de l'atelier US. Antoine Cyr et ses gadgetos. Est-ce que vos gadgetos volent cette semaine?
Alors d'abord, je peux pas vraiment dire ça, mais il y en a une ou un, non c'est un gadgeto.
Un gadgeto.
Qui va vous inciter à voler à l'extérieur de votre lit quand même.
Ah oui.
C'est d'ailleurs une gadgeto qui est signalée par Gizmag et qui s'appelle donc Ruggy ou Rugi, enfin Ruggy avec l'accent. Et donc voilà, en fait c'est un petit tapis de sol de 40 sur 60 centimètres. Et la sonnerie de votre réveil est gouvernée par ce tapis qui possède une mousse à mémoire de forme qui sait détecter les pieds de son propriétaire. Donc, tant que les pieds
ne
du
sont
propriétaire
pas,
n'ont pas
atterri
sur ce tapis et
à mémoire de forme.
À mémoire de forme. Donc on peut pas tricher,
on peut pas envoyer le minou.
Ou même le majordome, si vous avez un majordome.
Oui.
Vous pouvez pas rester dans votre lit sonner, vous savez comme dans les pièces de Molière là où il y a drelin.
Édouard, installez-vous sur le tapis.
Voilà, non, ça ne marche pas.
Non.
Ou alors sauf que vous savez qu'en général les lords anglais prennent toujours un majordome qui fait exactement la même pointure qu'eux, parce que comme ça le majordome peut
porter
leurs chaussures pendant les deux premiers jours.
Ah, ça c'est bien. Donc comme ça après ils ont moins mal aux pieds.
Exact, pas le majordome,
non,
mais le lord.
Le lord. Bien sûr.
Voilà.
D'accord.
Bon,
donc revenons à nos tapis.
Donc le tapis, il y a pas moyen de tricher, hein. Et donc voilà, si c'est pas vous et si vous avez pas sautillé pendant 3 secondes d'affilée sur le tapis, il continue à sonner et voilà. Et donc
on est obligé de se lever.
Vous êtes obligé de se lever. Alors actuellement, ce réveil est en cours de financement sur Kickstarter, mais il a déjà un franc succès puisque on est au Canada et il y a déjà près de 100 000 dollars canadiens qui ont été levés. Ça, c'est prévu pour septembre 2016.
Alors, voilà. Autre petit gadgeto rapidos.
Alors, gadgeto rapidos, cette fois-ci via Engadget. Alors là, je vais vous parler de Nadine et Edgar.
D'accord.
Voilà.
Bon, ils ont l'air sympas.
Ouais.
Hein?
Donc, en fait, Nadine et Edgar, ce sont des robots, mais ce sont des robots sur écran qui peuvent apparaître sur des moniteurs, sur des téléviseurs. Enfin, c'est pas des robots en 3D pour le coup. C'est
d'accord.
Des robots en 2D.
Oui.
Mais ils ont des caractéristiques très intéressantes. Alors, Nadine, qui est donc le premier robot, se souvient de vous. Donc, quand Nadine vous voit, quand elle est de l'autre côté de l'écran,
elle sait que je suis en face d'elle.
Et donc, par définition, tout l'échange ultérieur va tenir compte de la connaissance qu'elle a de vous.
D'accord.
Ça peut être très utile. Et alors, Edgar, lui, il fait un truc incroyable, c'est qu'il reproduit exactement les gestes de celui qui le commande. Et donc, imaginez un professeur qui est quelque part en train de faire des grands effets de manche, de dire Jules César a été assassiné par Brutus et qui donc a a besoin de le dire avec un peu d'emphase, eh bien, il peut avoir 30 Edgar dans des téléviseurs, dans 30 salles différentes, qui vont reproduire exactement sa mimique.
Ah oui.
Donc, on peut en direct, en fait, avoir des robots qui ne sont pas forcément vous, mais qui font exactement comme vous.
Des robots imitateurs.
Des robots imitateurs.
En quelque sorte.
Voilà.
Eh bien, dites-moi. Ça fait un peu peur, ça, quand même, Antoine. Hein
ah bon.
Bon, on revient dans un instant. Focus Startup et notre enquête de l'atelier. On va parler de travail, d'emploi et de numérique. À tout de suite sur BFM Business.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business avec notre enquête de l'atelier dans un instant avec Lila Megrawa et notre invité. On va s'intéresser au travail et l'emploi à l'ère du numérique. Mais auparavant, notre focus startup avec vous, Aurore Géraud. Et on va découvrir des fabs qui chauffent l'eau grâce à l'énergie dégagée, écoutez bien, par un parc informatique intégré, Aurore.
Alors, pour le focus startup de cette semaine, je suis avec Benjamin Laplagne, qui est responsable des opérations chez Defab. Benjamin, bonjour.
Bonjour.
Alors, Defab, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ? On entend Fab, peut-être Fab Lab.
Alors en fait, Defab, c'est né d'une volonté double avec mon associé, qui était d'une part que on souhaitait aborder des problématiques liées, on va dire, aux problématiques énergétiques et à l'informatique, et qu'on souhaitait le pas faire en faisant que du logiciel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de start-up qui se lancent en abordant les problèmes d'un point de vue software, et on pense qu'une partie de la réponse se cache aussi dans le hardware. Et donc en choisissant un mot justement Defab, qui est un mot assez orienté sur la partie fabrication, on voulait vraiment garder cette identité en incluant le hardware.
Donc du coup, comment on inclut le hardware ?
Donc Defab, alors pour être un petit peu plus clair sur ce qu'on fait, aujourd'hui on développe en fait une plateforme de cloud distribuée. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, quand vous accédez à des services cloud classiques comme votre boîte Gmail ou une Dropbox ou des services de vidéo en ligne par exemple, vous adressez en fait des services qui sont hébergés dans des data centers, qui sont des hangars, on va dire, de la taille de près d'un terrain de foot, et dans lequel vous avez beaucoup d'ordinateurs qui fonctionnent toute la journée et qui sont refroidis par des climatisations. Donc aujourd'hui le cloud c'est ça, hein, c'est pas magique. Et de l'autre côté, on a aujourd'hui une volonté globale de réduire les empreintes énergétiques des villes. Et c'est de ce point de vue-là qu'on essaie de venir faire cohabiter les deux. Donc Defab, on fait quoi ? On réalise en fait les mêmes services que vont réaliser un data center, mais de manière distribuée, avec des unités qui sont plus petites, qui sont intégrées à la ville, et qui nous permettent d'avoir des coûts d'exploitation et une résilience de la plateforme qui est beaucoup plus importante. En deux mots, on récupère la chaleur d'unités informatiques plus petites en les adossant à des ballons d'eau chaude sanitaire sur lesquels on fait de la récupération de chaleur. Comme un ordinateur, c'est 100% de la chaleur une fois que ça a travaillé. Cette chaleur-là, plutôt que de la traiter comme un déchet, nous on la récupère et on la valorise en la communiquant à vos ballons d'eau chaude. Donc pour chauffer les douches auprès de piscines ou d'équipements sportifs par exemple.
Alors c'est plutôt pour les collectivités ou est-ce qu'on peut en tant qu'entreprise se dire on met des choses sur le cloud, il fait chaud et on le met dans notre entreprise, votre produit pour réchauffer, je sais pas, les sanitaires, quelque chose dans le genre.
Tout à fait. Alors en fait, nous dans la conception du business model, on a en fait d'une part des exploitants qui ont un besoin d'eau chaude sanitaire, qui représentent un certain nombre d'acteurs, qui peuvent être des industriels. On parle de collectivités locales, on parle d'entreprises, typiquement que ce soit en unité de production ou en process industriel. Et de l'autre côté, des clients qui ont des besoins cloud et qui sont pas forcément les mêmes que ces premiers industriels et qui eux, dans tous les cas, font aujourd'hui de l'achat de services informatiques externalisés. Et donc qui eux, pour le coup, sont nos clients à qui nous fournissons un service informatique distribué, innovant et écologique.
Et c'est quoi la portée ? À quoi on peut s'attendre d'un point de vue économie ?
Alors, en termes de portée, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on fait déjà un peu de récupération de chaleur sur des data centers, ça existe. Il y a un exemple du côté de Marne-la-Vallée, par exemple. Avec l'approche que nous on souhaite avoir, on souhaite vraiment systématiser cette approche. C'est-à-dire que la problématique, c'est qu'on consomme de plus en plus d'informatique tout le temps. Pour de plus en plus de choses et on parle d'objets connectés à tout va et tout le monde invente des chaises roulantes, des mixeurs, des cafetières connectées qui génèrent de la donnée, qui va falloir traiter, analyser, etc. Et ben tout ça va prendre de la place, ça va prendre des ressources. et ben plutôt que continuer à construire data center, on va devenir la solution évidente de, et en plus de proximité pour tous ces objets connectés. Et donc en fait, on va avoir un data center à l'échelle d'un territoire qui va être maillé et qui va permettre à l'ensemble de ces objets de se connecter, de pré-traiter l'information pour la donner. Donc ça, c'est sur la partie informatique. Sur la partie chauffage sanitaire, tout dépend de la consommation d'eau chaude qui est faite dans le bâtiment. Si la consommation d'eau chaude, elle est aujourd'hui, on va dire, sur un ballon d'eau chaude électrique, pour vous donner une idée, on va économiser entre c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par an sur des exploitations type piscine ou hôtel, on n'a pas forcément parlé, qui eux utilisent des quantités d'eau chaude sanitaire assez élevées.
Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?
Eh bien écoutez, aujourd'hui nous sommes en levée de fonds qui a pour deux objectifs, un bien évidemment continuer à agrandir l'équipe et puis d'autre part surtout pouvoir lancer l'industrialisation de notre produit sur cette année et puis pouvoir continuer sur un roadmap de développement avec des produits plus puissants pour les années qui viennent.
Merci Benjamin.
Merci beaucoup Aurore, et après donc ce Focus Startup, place à notre enquête de l'atelier Lila. Cette semaine nous allons parler de travail, d'emploi et de numérique. Vaste programme quand même.
Bah oui. Ouais. Tout un programme. C'est d'ailleurs le programme d'un rapport remis par notre invitée, Nathalie Andrieux. Bonjour.
Bonjour.
Alors Nathalie Andrieux, vous faites partie du Conseil national du numérique. Vous avez également piloté ce fameux rapport intitulé « Le travail et l'emploi à l'heure du numérique » qui a été remis il y a une dizaine de jours à la ministre du Travail, Myriam El-Khomri. Donc ce travail a réuni à la fois des auditions d'experts, économistes, sociologues, juristes, fonctionnaires, divers auditions. Ma première question, ce serait un peu à quel besoin répondait l'écriture de ce rapport. À première vue, on peut se dire crowdsourcing, économie collaborative, robotisation, automatisation. Le numérique pourrait-il détruire nos emplois ou au contraire accélérer tout ça?
Alors, la question du rapport, c'était vraiment quel est l'impact du numérique sur l'emploi et sur le travail, sachant que de plus en plus, on essaye de dissocier les notions d'emploi qui correspondent à un statut bien spécifique en entreprise et la notion de travail qui recouvre un ensemble beaucoup plus large. Donc, quel est l'impact du numérique sur cet emploi et le travail? Et puis, très vite, on sait, et donc l'impact en termes de création ou de destruction d'emplois, l'impact en termes de secteurs protégés ou au contraire de secteurs qui risqueraient de disparaître. Oui. Etc. etc. Et en réalité, quand on a commencé à y travailler à peu près au cours de l'été, on s'est rendu compte que le sujet était beaucoup plus vaste parce que finalement, le numérique, ça avait aussi énormément d'impact sur l'individu, sur la personne. Et du coup, notre rapport, on a eu du mal à en définir le contour et le périmètre. Et on a pris à ce moment-là deux partis pris. Le premier, c'est effectivement d'avoir un regard très numérique sur l'ensemble de ces éléments. Et le deuxième parti pris, c'était d'accepter l'incertitude. Parce que si vous me posez la question de savoir s'il y aura plus de création ou plus de destruction d'emplois, je vais vous dire que j'ai lu une vingtaine de rapports par des gens très, très qualifiés et que les avis qu'ils émettent peuvent être soit convergents, soit totalement divergents. Et plus on avait d'auditions et plus on se rendait compte qu'en réalité, on n'arrivait pas à trouver un point de convergence. Mmh. On arrivait à trouver des avis divergents.
Donc on ne sait pas aujourd'hui si numérique va être destructeur d'emplois, dans sa moyenne, en quelque sorte.
Absolument. Moi, je suis incapable de dire si globalement, il va y avoir plus d'emplois créés ou plus d'emplois détruits en somme globale. Par contre, et donc c'est un point qui est un point qui est très fort et qu'il faut accepter. Enfin, moi, voilà, on a revendiqué dans ce rapport l'incertitude, d'accepter l'incertitude et d'accepter néanmoins d'agir dans l'incertitude. Et c'est pour ça qu'ensuite, on a mis des axes de travail sur lesquels, dans ce monde d'incertitude, il fallait néanmoins prendre position ou prendre date pour des réflexions, quitte à mettre en place les actions un peu plus tard. Donc il y a des actions immédiates, des actions qui sont un peu plus tardives. Si je peux prendre un exemple, c'est quelque chose sur lequel, pour le coup, il y avait convergence, quelle que soit la façon dont les gens visualisaient l'avenir. C'est l'hybridation, ce qu'on appelle l'hybridation des parcours. C'est-à-dire que nous n'allons plus faire le même métier à partir du moment où on a fini nos études jusqu'à la fin de notre carrière. Il y aura forcément des métiers différents, des travaux différents. Et si on accepte cela, ça veut dire plein de choses en réalité, si on tire le fil. Le premier, c'est que formation initiale et formation continue ne doivent plus s'opposer comme elles le sont aujourd'hui. On a une formation initiale extrêmement puissante et puis ensuite une formation continue qui n'est pas du même niveau. Le second, c'est d'accepter que nos statuts soient très différents dans nos parcours, qu'on puisse avoir plusieurs emplois en parallèle ou plusieurs travaux en parallèle ou alors en série. Et si c'est en série, c'est-à-dire l'un derrière l'autre, en alterné, à ce moment-là, il peut aussi y avoir des périodes pendant lesquelles, eh bien, c'est des périodes de ce qu'on peut appeler de respiration qui, où il faudra bien être occupé.
Est-ce que ça signifie également l'évolution du contrat de travail? On parle de plus en plus de l'évolution des modes de travail, d'une évolution vers des contrats, vers une manière de travailler par mission, par conduite de projet, l'essor du travail indépendant, notamment avec l'économie collaborative. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance tangible et qui devrait se pérenniser? Est-ce qu'on va vers ça?
Alors là, je suis complètement d'accord, et là on peut l'affirmer, oui, on va être de plus en plus dans des logiques de projet et de mission. Qu'on soit en dehors de l'entreprise et qu'on soit des travailleurs indépendants, entre guillemets, ou qu'on soit au sein même de l'entreprise. Et tout à l'heure, quand je parlais d'hybridation des parcours, ces parcours, ils sont hybrides à l'extérieur, mais ils doivent l'être aussi à l'intérieur de l'entreprise. D'où quelque chose que nous, on a mis en avant comme une recommandation, c'est le fait d'attacher les droits à l'individu et non plus au statut. Mmh. Parce que ça, et d'où le compte personnel d'activité qui est en cours de débat actuellement, ça nous semble être un outil extrêmement important parce qu'il va lever un certain nombre de freins. Si je prends un exemple, je travaille en entreprise, je suis salarié, tout va bien, j'ai un emploi et un statut, et puis j'ai une idée extraordinaire, j'aimerais bien créer ma boîte sur une idée. Si vraiment j'ai envie de le faire, aujourd'hui, je prends des risques importants en termes de rémunération, mais ça, c'est à la limite, c'est mon choix. Mais aussi, je perds tous les droits que j'ai acquis au sein de cette entreprise. C'est presque ce que Benoît Thiolin, qui est le président du Conseil national du numérique, appelle la double peine. C'est presque, voilà, effectivement, une double peine. C'est-à-dire que je perds tout. Si mes droits sont attachés à moi, ça peut tout à fait me permettre de partir avec un certain nombre de droits qui sont attachés, non pas au statut de l'emploi que j'avais, mais au statut de ce que je suis, me permettre de tenter mon expérience, là, dans l'exemple que j'ai pris d'entrepreneur, de femme d'entreprise. J'aime bien féminiser les noms, mais... Et donc... entrepreneuse après, bon.
Dans ce contexte, je sais pas, ça va.
Dirigeante, voilà.
Dirigeante, c'est bien.
Et puis, si jamais ça fonctionne, formidable, si je veux retourner en entreprise derrière. Et je pense que c'est pour ça que je dis ça lève les freins.
Il ne faut pas casser l'élan et le courage et l'envie qu'on peut avoir de...
Ça bride les talents. Si jamais on n'a pas les outils qui permettent à cette fluidité des parcours de se réaliser, en réalité, ce que l'on fait, c'est qu'on bride potentiellement des talents et des expressions.
D'autant qu'on pourra le faire de plus en plus tard dans sa carrière, donc ça veut dire qu'on aura une vie de famille, on prendra pas forcément des risques si c'est compliqué.
Exactement, c'est pour ça que ce fonctionnement par projet, par mission qui va être de plus en plus courant dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise, il doit être accompagné, facilité par des changements de droits.
Ça existe déjà, il y a des laboratoires qui... travaillent comme ça, en tout cas qui sont sur ce schéma-là.
Vous voulez dire des laboratoires au sein
des entreprises. Oui. Je sais que par exemple Kenji propose à certains de ses salariés de créer leur propre projet, et au bout d'un an, si ça ne marche pas, ils peuvent réintégrer l'entreprise, par exemple.
Tout à fait. Alors c'est de plus en plus courant au sein des entreprises de permettre à ses salariés d'avoir des idées et de lancer ces idées, soit au sein, soit à l'extérieur de l'entreprise. Bon, moi, je viens de La Poste, donc je vais citer La Poste. La Poste a lancé des projets, 20 projets pour 2020, où justement l'idée, c'était d'accompagner des salariés qui se sentaient l'âme d'un entrepreneur avec une idée d'entreprise, pour ensuite vraiment être dans une logique de lancer quelque chose. Ce que votre question me fait penser également au fait que, en termes de statut, des statuts qui permettent d'évoluer comme ça, c'est un peu ce qu'on appelle, hein, avec le CPA et autour de ces, mmh. de ces éléments-là pour faciliter. Là aussi, ça existe. Ça existe en Italie. Il y a des exemples en Italie. Il y a des exemples en Espagne où on essaye non pas de créer un nouveau statut parce que je crois que plus on va complexifier et moins ça va être facile. Mmh. Donc, mais par contre, justement, de changer la façon dont on est considéré aujourd'hui, où on est très encadré dans un statut avec des délimitations extrêmement fortes sur nos droits pour pouvoir justement évoluer facilement. Donc ça, oui, ça existe en Espagne, en Italie. Il y a des exemples à l'étranger qui nous permettent de dire que c'est vers ça qu'il faudrait aller.
Est-ce que vous pensez, Nathalie Andrieux, que ce CPA pourrait être rattaché, pourrait être la solution pour accorder des droits sociaux aux travailleurs indépendants de l'économie collaborative? Parce qu'il y a un vrai vide juridique autour de ces travailleurs-là.
Absolument, ces travailleurs indépendants, nous on les appelle travailleurs indépendants dépendants. Économiquement, parce que finalement là on est dans cette notion d'indépendance, elle aujourd'hui dans la loi elle reflète la loi de subordination, c'est-à-dire le rapport de subordination qui est un rapport aujourd'hui de subordination juridique et pas économique. Or ces travailleurs indépendants dépendants finalement n'ont pas de subordination juridique mais ont une subordination économique extrêmement forte et c'est en ce sens qu'ils sont dépendants. Donc évidemment il faut qu'ils aient des droits, il faut faire évoluer le droit commun.
Là on parle par exemple d'Uber, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Chauffeurs Uber.
C'est peut-être le plus criant actuellement.
On parle des chauffeurs Uber et au-delà, alors on parle des chauffeurs Uber et d'autres, hein, donc oui, nous on préconise qu'il y ait des droits qui soient attachés à ces travailleurs indépendants, dépendants économiquement. Et plus globalement, en réalité, c'est de se dire que finalement le web, d'une manière générale, moi c'est quelque chose que je dis souvent, c'est qu'Internet a donné du pouvoir à l'individu, du pouvoir aux salariés, du pouvoir aux collaborateurs. Mais si on reste au niveau de l'individu finalement et seulement au niveau de différents individus. On donne du pouvoir à des individus, mais en fait, c'est aussi une façon de les fragiliser si on n'intègre pas ces individus dans le collectif. Et l'un des points forts aussi du rapport, c'est d'essayer de dire, il faut des axes de travail sur l'individu, mais il faut aussi des axes de travail sur le collectif pour remettre l'individu dans le collectif. Le travailleur indépendant, dépendant économiquement, c'est un bon exemple où l'individu, on peut dire, bah, finalement, il est tout puissant, alors qu'en réalité, s'il n'est pas dans le collectif, il devient extrêmement fragile face à à son lien de subordination.
Parce qu'il y a une certaine précarité, malgré tout, cette activité.
Et peut entraîner une certaine précarité si on n'y prend pas garde, absolument.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci à vous.
Très intéressant, bien sûr. Lila, on revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique. Ce sera dans quelques minutes notre web stratégie. Et puis, bien sûr, après notre passion selon Sanette. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Notre passion selon Sanette dans une minute. Mais pour l'heure, notre web stratégie. On va s'intéresser à la stratégie digitale de Fauchon avec vous, Lila Megrawa.
L'atelier numérique sur BFM Business, la web stratégie.
Oui, François. Alors, cette semaine, on va s'intéresser à la transformation digitale de Fauchon Paris. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jules Trécaud. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Jules Trécaud, vous êtes directeur digital et communication monde de Fauchon Paris. Alors, racontez-nous, rappelez-nous un peu quand et comment Fauchon a pris son virage du digital.
Tout d'abord, Fauchon Paris, pour remettre dans le contexte, est une marque qui a 130 ans cette année et qui s'est développée autour de l'art de vivre à la française de manière générale et de manière assez luxueuse. Donc on peut autant faire de l'épicerie fine du traiteur que de la cave, de la boulangerie et même depuis peu de l'hôtellerie. Et donc on a un champ d'action qui est très très large et qui intervient surtout sur tous les continents. Aujourd'hui, la digitalisation de la marque, elle est faite pour apporter davantage de services aux clients. On a très longtemps séparé le retail physique du retail online et en gros qualifié le digital uniquement de vente à distance. Aujourd'hui, le digital, il est partout. Il est en magasin, il est lorsqu'on est à la maison sur les réseaux sociaux, il est lorsqu'on cherche à naviguer et à obtenir du contenu sur un site internet. Et donc, il faut, via, en tout cas, ces différentes plateformes digitales, que peuvent être un site internet, une application mobile, une plateforme sociale ou encore derrière un magazine, apporter en tout cas des réponses et un service aux consommateurs.
Pour se représenter un peu, quels services ont été mis en place pour améliorer l'expérience client ?
Mais la première chose, ça a été de casser la barrière entre retail online et retail physique. Et pour ce faire, on a lancé le service de Click and Collect qui permet en fait le retrait en magasin pour un petit retour d'expérience. Au départ, ce service avait été lancé avec une optique de retrait à J+1. On s'est aperçu très rapidement que ce service ne convenait pas aux clients, car en fait, contrairement à une paire de chaussures, une robe ou à un pantalon que vous désireriez acheter, lorsque vous voulez un produit alimentaire, il y a un achat d'impulsion et vous le voulez en fait maintenant tout de suite à déguster. Et pour ce faire, on a justement réduit le temps jusqu'à 3 heures et donc maintenant vous pouvez venir retirer vos produits chez Fauchon en 3 heures. Donc la première étape a été de montrer que non seulement le site internet pouvait rapporter du chiffre au magasin, même si aujourd'hui on n'a qu'un seul PNL compte de résultats entre le magasin et l'e-commerce, mais qui pouvait driver du trafic et générer vraiment un trafic et un chiffre d'affaires supplémentaire pour le magasin. La deuxième, c'était créer des moyens de transport urbain qui permettent au magasin de se défendre, on va dire, face à l'invasion e-commerce de concurrents. Donc on a des pure players, on a Vente Privée qui aujourd'hui vend l'épicerie fine avec Miam Miam. Donc le principal axe stratégique de développement pour des marques de luxe telles la nôtre, c'est de proposer le produit encore plus rapidement et avec le plus de services. Et pour cela, on s'est encadré d'experts en logistique urbaine pour développer des services qui nous permettent de livrer entre 1h30 et 3h en Ile-de-France, nos produits, que ce soit des produits frais ou des produits secs.
Aujourd'hui, pour se représenter, l'e-commerce, ça représente quelle part du chiffre d'affaires de Fauchon Paris ?
Aujourd'hui, ça représente 10% du chiffre d'affaires Europe.
Donc c'est quand même plus que notable. Alors pour continuer dans votre approche, l'expérience client en magasin, de l'amélioration, j'ai lu que vous aviez lancé plusieurs expérimentations, plusieurs tests d'iBeacons en magasin. Aujourd'hui, ça donne quoi ?
Aujourd'hui, il y a deux axes stratégiques qui ont été développés autour de l'iBeacon. Premièrement, donc un axe de conquête où on cherchait justement via des partenaires que peut être Vente Privée, Place ou même TF1 à envoyer des messages push sur les personnes qui sont proches de notre zone de chalandise pour les inviter à venir en magasin à découvrir nos nouveautés. Fauchon ne fonctionne pas avec de la promotion, on fonctionne avec de l'offre produit. On reste une marque de luxe, donc on n'attire pas via du rabais. Donc ça, c'était par rapport à un axe de conquête qui a plutôt bien marché, où les résultats sont prometteurs et on continue cette stratégie-là. Et on teste une autre stratégie par rapport à la fidélité client, qui est de reconnaître et d'obtenir davantage d'informations sur nos clients fidèles à leur arrivée en magasin via des tablettes vendeurs et via des systèmes de caisse intelligents qui nous permettent de retrouver des historiques sans que la personne ait forcément besoin de sortir une carte ou quoi que ce soit. Donc l'iBeacon fait partie des nombreuses initiatives technologiques que nous prenons sur Paris en vue de les développer partout dans le monde, sur nos magasins et nos restaurants au Moyen-Orient, en Asie du Sud ou même en Amérique. L'avantage de tester ces initiatives technologiques à Paris, c'est que cela nous permet de les tester avec le plus grand nombre de produits et le plus grand nombre de clients. C'est le magasin qui aujourd'hui est le plus grand du monde, Fauchon. Il est Place de la Madeleine et le but étant de bénéficier en tout cas de tout ce que peut apporter en tout cas l'élan technologique et le développement technologique de l'Île-de-France pour le développer partout dans le monde.
Aujourd'hui, quels sont vos grands chantiers en matière de digitalisation pour Fauchon Paris ?
Aujourd'hui, on va être véritablement dans l'amélioration de l'expérience client. On est en train de refaire notre site internet qui va sortir d'ici mars 2016. On a notre magasin historique du 30 Place de la Madeleine qui rentre en travaux et qui va réouvrir pas plus tard que septembre 2016, même si notre deuxième magasin qui est au 24-26 Place de la Madeleine reste ouvert. Mais aujourd'hui, le véritable axe de développement va être l'accélération justement du parcours d'achat. Aujourd'hui, dans les initiatives qu'on regarde, on travaille avec Facebook ou d'autres réseaux sociaux justement pour permettre l'achat et la relation en tout cas client via Messenger, via mobile ou directement après peut-être via Snapchat selon les régions. L'idée étant véritablement que le client, où qu'il soit dans le monde, dise « je veux 12 macarons » qu'on puisse être, avoir un effet vraiment de curation et lui dire dans tous les cas je viens chez Fauchon parce que chez Fauchon j'ai l'assurance de la qualité du produit. Nous on lui propose directement ces trois produits et en un seul lien en fait il a qu'à payer avec sa carte bancaire ou un autre moyen de paiement avec Apple Pay ou autre. Et nous, on lui envoie son produit sans qu'il ait besoin de passer par une de nos plateformes digitales, .com, ou via une de nos applications. L'idée étant de véritablement utiliser aujourd'hui les outils sociaux et notre communauté qui est présente un petit peu partout dans le monde pour lui proposer nos produits et un service qui est différenciant dans l'univers du luxe.
En fait, ce que vous dites, c'est que vous suivez de très très près les avancées de Facebook en matière de services de conciergerie, de monétisation de la messagerie instantanée. Demain, on pourrait imaginer commander via Facebook Messenger une douzaine de macarons Fauchon.
Tout à fait. L'idée étant de pouvoir expédier dans plus en plus d'endroits dans le monde. Le macaron pose une problématique supplémentaire car c'est un produit frais. Mais aujourd'hui, typiquement avec le nouveau site qui sort en mars, on ouvre de nouveaux pays qui n'étaient pas disponibles en e-commerce, qui sont hors Europe. On ouvre les États-Unis, le Japon et 6 mois plus tard la Chine.
Et ben on va suivre tout ça de très près et peut-être vous avoir de nouveau à notre micro d'ici quelques mois. Jules Tréco, merci. Je rappelle, vous êtes directeur digital et communication monde de Fauchon Paris. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Lila. On revient dans un instant pour notre passion selon Sanette. On va parler tout à l'heure de faire le mouvement maker et puis aussi le mouvement hacker. À tout de suite.